Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Isabelle continua en refoulant ses larmes. Hier, comme vous savez, M. Renshaw aurait dû assister à l'enterrement. Dans cette intention, il avait observé une sobriété relative. Il n'avait pas été se mettre au lit fou furieux à 6 heures du matin pour en sortir encore ivre à midi. Mais il en résulta qu'en se levant, il était très abattu, avec des idées de suicide, aussi disposé à aller à l'église qu'à aller au bal. Et au lieu de s'y rendre, il s'assit près du feu et avala de grands verres de gin et de brandy. Heathcliff, je frissonne en prononçant son nom, avait à peine paru dans la salle depuis dimanche dernier jusqu'aujourd'hui. Sont-ce les anges ou ses parents des régions infernales qui l'ont nourri, je ne sais, mais il n'a pas pris part à un seul repas avec nous depuis bientôt une semaine. Il ne revenait qu'à l'aube, montait à sa chambre et s'y enfermait, comme si personne avait envie de rechercher sa compagnie. Il restait là à prier comme un méthodiste. Seulement la divinité qu'il implorait n'est que poussière et cendre inanimée. Et quand il s'adressait à Dieu, il le confondait étrangement avec le démon. Après avoir achevé ses édifiantes oraisons, et elles duraient en général jusqu'à ce qu'il fût complètement enroué et que sa voix s'étrangla dans son gosier, il repartait, toujours droit vers la grange. Je suis surprise qu'Edgar n'ait pas envoyé chercher un agent de police pour le faire arrêter. Quant à moi, quelque chagrin que j'eusse de la mort de Catherine, je ne pouvais m'empêcher de considérer comme une fête ces heures où j'étais délivré d'une oppression dégradante. Je repris assez de courage pour écouter sans pleurer les éternelles homélies de Joseph pour aller et venir dans la maison d'un pas moins furtif que celui d'un voleur effrayé. Croiriez-vous que j'avais pris l'habitude de pleurer à tout ce que disait Joseph? Mais Ayrton et lui sont vraiment de détestables compagnons. J'aimerais mieux rester avec Hindley et subir ses horribles propos qu'avec le petit Matt et son fidèle défenseur, cet odieux vieillard. Quand Heathcliff est là, je suis souvent obligé de me réfugier à la cuisine, dans leur société, ou de grelotter dans les chambres inhabitées pleines d'humidité. Quand il n'y est pas, comme c'était le cas cette semaine, j'installe une table et une chaise au coin du feu dans la salle et je ne m'occupe pas de la manière dont M. Earnshaw emploie son temps, pas plus calme maintenant que naguère quand on ne le provoque pas, plus sombre, plus abattu et moins furieux. Joseph affirme que c'est un homme changé, que le Seigneur a touché son cœur et qu'il est sauvé comme par le feu. Je n'ai pas encore pu découvrir les signes de ce changement favorable, mais ce n'est pas mon affaire. Hier soir, je suis restée assise dans mon coin à lire quelques vieux livres jusque vers minuit. Il me paraissait tellement sinistre de remonter dans ma chambre avec cette neige furieuse qui tourbillonnait dehors et mes pensées qui retournaient toujours au cimetière et à la tombe fraîchement creusée. J'osais à peine lever les yeux de la page placée devant moi tant cette triste image en prenait vite la place, Hindley était assis en face de moi, la tête appuyée sur sa main. Peut-être méditait-il sur le même sujet. Il avait cessé de boire avant d'avoir perdu la raison et n'avait ni bougé ni parlé depuis 2 ou 3 heures. On n'entendait dans la maison rien d'autre que les hurlements du vent qui secouaient les fenêtres de temps en temps, le faible crépitement des charbons et le bruit sec de mes mouchettes quand il m'arrivait de raccourcir la mèche de la chandelle. Harton et Joseph étaient dans leur lit, profondément endormis sans doute. C'était triste, très triste. Tout en lisant, je soupirais car il semblait que toute joie eût disparu du monde pour n'y jamais revenir. Ce pénible silence fut enfin interrompu par le bruit du loquet de la cuisine. Heathcliff était revenu de sa veillée plus tôt que d'habitude à cause de la tempête soudaine, je suppose. La porte était verrouillée et nous l'entendîmes faire le tour pour entrer par une autre. Je me levai et l'expression de mes sentiments me vint aux lèvres malgré moi. Hindley, qui tenait les yeux fixés sur la porte, se retourna et me regarda. « Je vais le laisser dehors 5 minutes, » s'écria-t-il, « vous n'y voyez pas d'objection ?»« Non. » « Vous pouvez même le laisser dehors toute la nuit, » répondis-je. « N'hésitez pas. Mettez la clé dans la serrure et tirez le verrou. » Et Hanshaw obéit avant que son hôte eût atteint le devant de la maison. Puis, il avança sa chaise de l'autre côté de ma table et se pencha, cherchant dans mes yeux de la sympathie pour la haine brûlante qui jaillissait des siens. Comme il avait l'aspect et les sentiments d'un assassin, ce n'est pas exactement ce qu'il y trouva, mais ce qu'il y découvrit suffit pour l'encourager à parler. « Vous et moi, » dit-il, « avons l'un et l'autre un grand compte à régler avec cet homme. Si nous n'étions pas lâches, ni l'un ni l'autre, nous pourrions nous unir pour en finir. » Êtes-vous aussi faible que votre frère? Endurerez-vous tout jusqu'au bout sans jamais essayer de lui faire payer? Je suis lasse maintenant d'endurer, répondis-je. Et je serai heureuse de trouver une vengeance qui ne retomba pas sur soi-même. Mais la traîtrise et la violence sont des lames à 2 points. Elles blessent ceux qui y ont recours plus grièvement que leurs ennemis. La traîtrise et la violence sont la juste récompense de la traîtrise et de la violence, s'écria Hindley. Madame Heathcliff, je ne vous demande que de rester immobile et muette. En êtes-vous capable? Dites, je suis sûr que vous auriez autant de plaisir que moi à assister à la fin de l'existence de ce démon. C'est la mort qui vous attend, si vous ne prenez pas les devants, et pour moi, c'est la ruine. Le diable emporte cet infernal coquin, il frappe à la porte, comme s'il était déjà le maître ici. Promettez-moi de vous taire, et avant que l'horloge sonne, il est 1h-3 minutes, vous serez délivré. Il tira de sa poitrine l'arme que je vous ai décrite dans ma lettre, et essaya d'éteindre la chandelle. Je parvins à la lui arracher et lui saisis le bras. « Je ne me tairai pas, vous ne le toucherez pas, laissez la porte fermée et restez tranquille. »« Non, ma résolution est prise et par Dieu je l'exécuterai, » cria ce forcené. « Je vous rendrai service malgré vous et justice sera faite à Harton. Il est inutile de vous mettre martel en tête pour me tirer d'affaire ensuite, Catherine n'est plus là. » Pas un être vivant ne me regretterait ni ne rougirait de moi si je me coupais la gorge en ce moment. Il est temps de faire une fin. Autant eût valu lutter avec un ours ou raisonner avec un fou. La seule ressource qui me resta était de courir à la fenêtre et d'avertir la victime désignée du sort qui l'attendait. « Vous feriez mieux de chercher refuge ailleurs cette nuit, » m'écriai-je, d'un ton plutôt triomphant. Monsieur Earnshaw est décidé à vous brûler la cervelle si vous persistez à essayer d'entrer. Vous feriez mieux d'ouvrir la porte, espèce de... répondit-il, en m'appliquant une épithète élégante que je préfère ne pas répéter. Je ne me mêlerai de rien, répliquai-je à mon tour. Entrez, et faites-vous tuer si cela vous convient. J'ai fait mon devoir. Là-dessus, je fermai la fenêtre et repris ma place au coin du feu. J'avais trop peu d'hypocrisie à ma disposition pour feindre d'être inquiète du danger qui le menaçait. Earnshaw m'accabla de jurons, affirmant que j'aimais encore le scélérat et me prodiguant toutes sortes d'insultes pour ma couardise. Quant à moi, dans le secret de mon cœur, et ma conscience ne me l'a jamais reproché, je pensais que ce serait pour lui une vraie bénédiction si Heathcliff le délivrait de sa misère, et que ce n'en serait pas une moindre pour moi-même s'il envoyait Heathcliff dans la demeure qui lui convient. Comme j'étais plongé dans ces réflexions, un coup que lança ce dernier dans la croisée derrière moi la fit tomber avec fracas. Et dans l'encadrement apparut son visage sombre, d'où jaillit un éclair sinistre. Les montants étaient trop rapprochés pour permettre à ses épaules de suivre, et je souris, exultant de me croire en sûreté. Ses cheveux et ses vêtements étaient blancs de neige, et ses dents aiguës de cannibale, qui se montraient sous l'effet du froid et de la rage, brillaient dans l'obscurité. « Isabelle, laissez-moi entrer ou je vous en ferai repentir » grogna-t-il, comme dit Joseph. « Je ne puis pas commettre un meurtre, » répondis-je. « Monsieur Hindley est en sentinelle avec un couteau et un pistolet chargé. Faites-moi entrer par la porte de la cuisine. »« Hindley y sera avant moi, » répliquai-je. « Quel pauvre amour est le vôtre qui ne peut supporter une averse de neige ?» Vous nous avez laissés en paix dans nos lits aussi longtemps qu'a brillé une lune d'été. Mais au premier retour offensif de l'hiver, il faut que vous couriez vous mettre à l'abri. Heathcliff, à votre place, j'irai m'étendre sur sa tombe et y mourir comme un chien fidèle. Le monde assurément ne vaut plus pour vous la peine d'y vivre, je pense. Vous m'aviez pénétré de la conviction bien nette que Catherine était toute la joie de votre existence. Je ne veux pas croire que vous songiez à survivre à sa perte. Il est là, n'est-ce pas ? S'écria Hindley en se précipitant vers l'ouverture. Si j'arrive à passer le bras dehors, je peux l'atteindre. Je crains, Hélène, que vous ne me considériez comme foncièrement mauvaise. Mais vous ne savez pas tout aussi, ne vous hâtez pas de juger. Je n'aurais pour rien au monde aidé ou encouragé un attentat, même sur lui. Mais il m'était impossible de ne pas souhaiter qu'il fût mort. Aussi fus-je terriblement désappointé et épouvanté à la pensée des conséquences de mes railleries quand il se jeta sur l'arme d'Earnshaw et la lui arracha des mains.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, puis l'en prends garde à ton chapeau.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Les hauts de Hurlevent, Émilie Brontë. Le coup partit, et le couteau, projeté en arrière, s'enfonça dans le poignet de son possesseur. Heathcliff l'en retira brutalement en déchirant les chairs et le jeta tout sanglant dans sa poche. Puis, il prit une pierre, abattit le montant qui séparait deux fenêtres et sauta dans la pièce. Son adversaire était tombé sans connaissance sous l'effet de la violente douleur et du flot de sang qui jaillissait d'une artère ou d'une grosse veine. Le misérable le frappa à coups de pied, lui heurta la tête à plusieurs reprises sur les dalles en me retenant d'une main pendant ce temps-là pour m'empêcher d'aller appeler Joseph. Il fit preuve d'un empire surhumain sur soi-même, en s'abstenant de l'achever complètement. Enfin, à bout de souffle, il s'arrêta et tira le corps en apparence inanimé jusque sur le banc. Il déchira alors la manche de la veste d'Earnshaw et pansa la blessure avec une rudesse brutale, crachant et jurant pendant l'opération avec autant d'énergie qu'il en avait mis auparavant à le piétiner. Redevenu libre, je ne perdis pas de temps pour aller chercher le vieux serviteur qui, ayant fini par comprendre le sens de mon récit précipité, accourut en bas haletant en descendant les marches 4 à 4. « Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant ?»« Il y a ceci à faire, » tonna Heathcliff. « Votre maître est fou, et s'il vit encore dans un mois, il sera enfermé dans une maison de santé. Comment diable avez-vous tout verrouillé quand j'étais dehors, vieux chien édenté ? Ne restez pas là, à grommeler et à marmotter. Allons, ce n'est pas moi qui vais le soigner, nettoyez-moi toute cette saleté, et faites attention à lui avec votre chandelle. C'est plus qu'à moitié du brandy. » « Pour lors, c'est donc que vous avez commis un meurtre sur lui ? » s'écria Joseph, levant les mains et les yeux dans un geste d'horreur. « Si j'ont jamais rien vu de pareil, puisse le Seigneur !» Heathcliff lui envoya une bourrade qui le fit tomber à genoux dans le sang et lui lança une serviette. Mais au lieu de se mettre à essuyer, il y joignit les mains et commença une prière dont la bizarre phraséologie excita mon rire. J'étais dans un état d'esprit à n'être choqué de rien. En fait, j'étais aussi insouciante que le sont certains malfaiteurs au pied de la potence. « Ah, je vous oubliais, » me dit mon tyran. « Vous allez faire cela. Allons, à terre. Vous conspiriez avec lui contre moi, n'est-ce pas, vipère ? Tenez, voilà de l'ouvrage pour vous. » Il me secoua à faire claquer mes dents et me jeta à côté de Joseph, qui continua ses prières sans se troubler, puis se releva, jurant qu'il allait partir à l'instant pour la grange. Monsieur Linton était un magistrat, et eût-il perdu 50 femmes, il fallait qu'il ouvrît une enquête là-dessus. Joseph était si obstiné dans sa résolution que Heathcliff jugea utile d'exiger de ma bouche une récapitulation de ce qui s'était passé. Il me dominait d'un regard chargé de malveillance pendant que je satisfaisais à contre-cœur à ses questions. Ce ne fut pas sans peine, surtout avec mes réponses difficilement arrachées, que le vieillard se laissa persuader que Heathcliff n'avait pas été l'agresseur. Cependant, M. Earnshaw lui-même le convainquait bientôt qu'il était toujours vivant. Joseph s'empressa de lui administrer une dose de liqueur forte, grâce à quoi son maître recouvra bientôt le mouvement et la conscience. Heathcliff, voyant que son adversaire ignorerait le traitement qu'il avait reçu pendant qu'il était sans connaissance, lui dit qu'il avait déliré sous l'empire de l'ivresse, qu'il passerait l'éponge sur son atroce conduite, mais qu'il l'engageait à aller se coucher. À ma grande joie, il nous quitta lui-même après ce judicieux conseil et Hindley s'étendit sur la pierre de l'âtre. Je regagnai ma chambre, stupéfaite d'en être quitte à si bon compte. Ce matin, quand je suis descendu, une demi-heure environ avant midi, M. Earnshaw était assis près du feu, tout à fait mal en point. Son mauvais génie, presque aussi blême et décharné, était appuyé contre la cheminée. Ni l'un ni l'autre ne paraissait songer à dîner. Après avoir attendu jusqu'à ce que tout sur la table fût froid, j'ai commencé seul. Rien ne m'empêchait de manger de bon appétit, et quand de temps à autre je jetais un regard sur mes compagnons silencieux, j'éprouvais une certaine impression de satisfaction et de supériorité à sentir en moi le réconfort d'une conscience tranquille. Lorsque j'ai eu fini, j'ai pris la liberté inaccoutumée de m'approcher du feu, de passer derrière le siège d'Ironshaw et de m'agenouiller dans le coin à côté de lui. Heathcliff n'a pas fait attention à mon mouvement. J'ai levé les yeux et considéré ses traits avec presque autant d'assurance que s'il eût été changé en statue. Son front, qui naguère me paraissait si viril et que je trouve maintenant si diabolique, était voilé d'un lourd nuage. Ses yeux de basilic étaient presque éteints par l'insomnie, par les larmes peut-être, car Cécile était encore humide. Ses lèvres, d'où le féroce ricanement avait disparu, étaient serrées avec une expression d'indicible tristesse. Si c'eût été tout autre, je me serais caché la figure en présence d'une telle douleur. La sienne me procurait du plaisir. Et quelque lâcheté qu'il semble y avoir à insulter un ennemi tombé, je n'ai pu me retenir de profiter de cette occasion de lui décocher un dard. Ces moments de faiblesse étaient les seuls où je pusse goûter le délice de rendre le mal pour le mal. Fifi, miss, interrompis-je, on croirait que vous n'avez jamais de votre vie ouvert une Bible. Quand Dieu afflige vos ennemis, sûrement cela devrait vous suffire. Il est à la fois vil et présomptueux d'ajouter votre torture à la sienne. Je reconnais que c'est vrai en général, Hélène. Mais quel est le supplice infligé à Heathcliff qui pourrait me contenter si je n'y étais mêlé? Je préférerais qu'il souffrît moins si je pouvais être la cause de ses souffrances et qu'il sût que j'en suis la cause. Oh, mon compte avec lui est si chargé. Je ne puis espérer de lui pardonner qu'à une condition, c'est de m'être payé d'abord œil pour œil, dent pour dent, torture pour torture, et de l'avoir réduit à mon état. Puisque c'est lui qui a commis la première offense, qu'il soit le premier à implorer pardon. Et alors, eh bien alors, Hélène, je pourrais montrer un peu de générosité. Mais comme il est absolument impossible que je puisse jamais me venger, je ne puis donc lui pardonner. Hindley désirait un peu d'eau. Je lui ai tendu un verre et lui ai demandé comment il allait. Pas aussi mal que je voudrais, a-t-il répondu, mais sans parler de mon bras, chaque parcelle de mon corps est aussi endolorie que si j'avais lutté avec une légion de diablotins. Oui, ce n'est pas étonnant, ai-je remarqué. Catherine se vantait de s'interposer entre vous et la douleur physique. Elle voulait dire que certaines personnes ne vous toucheraient pas de crainte de l'offenser. Il est heureux que les morts ne se lèvent pas réellement de leur tombeau, car autrement, la nuit dernière, elle aurait pu assister à une scène répugnante. N'êtes-vous pas meurtri et blessé à la poitrine et aux épaules? Je n'en sais rien, mais que voulez-vous dire? A-t-il osé me frapper quand j'étais à terre? Il vous a accablé de coups de pied et vous a cogné contre le sol, dis-je à voix basse. Son envie de vous déchirer avec ses dents était telle que l'eau lui venait à la bouche, car il n'est homme qu'à demi, même pas, et le reste est un démon. Monsieur Ironshaw a levé les yeux, comme moi, vers le visage de notre ennemi commun. Absorbé dans son angoisse, celui-ci paraissait insensible à tout ce qui se passait autour de lui. Plus longtemps il restait dans cette attitude et plus la noirceur de ses méditations se révélait sur ses traits. Oh, si Dieu voulait seulement me donner la force de l'étrangler dans ma suprême agonie, j'irais en enfer avec joie, gémissait son impatiente victime qui se débattait pour essayer de se lever et retombait désespérée, convaincue de son impuissance à lutter. Non. C'est assez qu'il ait tué l'un de vous, ai-je observé tout haut. À la grange, tout le monde sait que votre sœur vivrait encore sans M. Heathcliff. Après tout, il vaut mieux être haï qu'aimé par lui. Quand je me rappelle comment nous étions heureux, comme Catherine était heureuse avant son arrivée. Je ne puis m'empêcher de maudire ce jour-là. Très vraisemblablement, Heathcliff a été plus frappé de la vérité de ces paroles que de l'excitation de la personne qui les avait prononcées. Son attention s'est éveillée, je l'ai bien vu, car des larmes coulaient de ses yeux dans les cendres, et sa respiration oppressée s'échappait en profonds soupirs. Je le regardais en face avec un rire de mépris. Des fenêtres voilées de l'enfer ont jailli un instant vers moi quelques éclairs, mais le démon qui en général veillait là semblait si obscurci, si noyé, que je n'ai pas craint de risquer un nouveau rire. « Levez-vous et disparaissez de ma vue, » a dit Heathcliff. J'ai deviné du moins qu'il prononçait ces mots, bien que sa voix fût à peine intelligible. « Je vous demande pardon, » ai-je répliqué. « Mais moi aussi j'aimais Catherine, et son frère a besoin de soins que pour l'amour d'elle je lui donnerai. Maintenant qu'elle est morte, je la revois en Hindley. Hindley a exactement ses yeux, ou les aurait. » Si vous n'aviez pas essayé de les lui arracher, ce qui les a rendus noirs et rouges. Et ça, levez-vous, misérable idiote, avant que je vous écrase sous mes pieds, s'est-il écrié en faisant un mouvement qui m'en a fait faire un aussi. Mais alors, ai-je continué en me tenant prête à m'enfuir, si la pauvre Catherine s'était fiée à vous et avait accepté le titre ridicule, méprisable, dégradant de Madame Heathcliff? Elle aurait bientôt offert un semblable spectacle. Elle n'eût pas supporté tranquillement votre abominable conduite, elle. Il eût fallu que sa haine et son dégoût trouvassent une voie. Le dossier du banc et la personne d'Earnshaw me séparaient de lui, de sorte qu'au lieu d'essayer de m'atteindre, il a saisi un couteau sur la table et me l'a lancé à la tête. La lame m'a frappé sous l'oreille et a arrêté la phrase que je prononçais en ce moment. Mais je l'ai retirée. J'ai couru à la porte en lui jetant encore quelques mots qui, je l'espère, auront pénétré un peu plus profondément que son projectile. Comme tableau final, je l'ai vu s'élancer avec furie, être arrêté par son hôte qui l'avait saisi à bras le corps, puis tous deux ont roulé enlacés devant la cheminée. En traversant la cuisine dans ma fuite, j'ai dit à Joseph d'aller vite trouver son maître. J'ai renversé Harton, qui était en train de s'amuser à suspendre une portée de petits chiens au dossier d'une chaise à l'entrée de la porte, et, heureuse comme une âme échappée du purgatoire, j'ai bondi, sauté, volé sur la route escarpée. Puis, négligeant ses détours, j'ai pris droit à travers la lande, culbutant sur les talus, m'enfonçant dans les marécages. Je me précipitais tête baissée vers mon phare, la lumière qui brillait à la grange. Et je consentirais plus volontiers à un séjour perpétuel dans les régions infernales qu'à reprendre place, fût-ce pour une seule nuit, sous les toits de Hurlevent. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.